Alors bonjour à tous et à toutes, et on va continuer avec Claude Hood. J'ai commencé avec son livre et je voudrais continuer. Alors, je vais mettre mes lunettes. Donc, aujourd'hui, c'est la foi qui se rapproche parce qu'elle a soif de résurrection. Oui, la foi qui se rapproche parce qu'elle a soif aussi de réveil. Et je pense à ce qui se passe autour de nous, à Wavrin, ce qu'on aimerait faire. Alors, on va lire Ézéchiel 37. Je ne vais pas tout lire, je vais choisir quelques versets. Donc, Ézéchiel 37, de 1 à 3, et ensuite de 16 à 20. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, autour d'eux. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Et au verset 16 à 20, « Quant à toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour les Israélites qui s'y rattachent. Prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour la communauté d'Israël qui s'y rattache. Rapproche-les l'un de l'autre pour n'avoir qu'un seul morceau de bois afin qu'ils soient unis dans ta main. Lorsque les membres de ton peuple te diront « Ne vas-tu pas nous expliquer ce que cela signifie ?» Réponds-leur « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'y rattachent. Je les joindrai au bois de Juda et je n'en ferai qu'un seul morceau de bois, si bien qu'ils seront unis dans ma main. » Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main devant leurs yeux, devant le peuple. Donc ça, c'est un premier passage de la lecture, de la parole. Il y a une deuxième parole que je voudrais parler aussi. C'est Genèse 13, 8. C'est qu'un petit verset. C'est Abraham qui dit à Lot qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Oui. Donc ces deux versets vont être le fil conducteur. La faim pousse l'être humain à faire des choses terribles. De l'histoire des footballeurs de l'avion qui s'écrasa dans les montagnes glaciales et enneigées, qui mangèrent les cadavres de leurs coéquipiers. De l'histoire de la prostitution dans les villes du monde à la corruption qui sévit dans les pays. La faim, toutes les faims, abaisse, avélie l'homme et érode sa dignité. Il y a une faim aussi, une faim spirituelle, et c'est exactement pareil. Le même phénomène prend place dans des millions d'églises et dans le cœur de chrétiens à travers le monde. Ils sont tellement désespérés de voir agir Dieu. Ils ont tellement faim de réveil qu'ils sautent à pieds joints dans tous les trains qui passent. Ils ont échangé la croix contre une girouette. Ils changent de direction à chaque coup, à chaque nouvelle mode, pour une méthode ou un mouvement qui promet le réveil. Dans Ézéchiel, on voit que c'était un homme qui avait soif de résurrection. Dieu lui demanda, « Ses os peuvent-ils revivre ?» Et Ézéchiel répondit, « Toi seul, Seigneur, sais comment. » Moi, j'ai faim et j'ai soif de réveil pour Wavrin, pour la France, pour le monde. Ézéchiel nous donne une clé. « Toi seul, Seigneur, sais comment. » Oui, c'est toi, Dieu, qui sais comment. qui nous apprendra de quelle manière les ossements de nos vies, de nos familles, de notre Église et ceux de mon pays pourront revivre. Dieu ouvrit les yeux d'Ézéchiel à ce qui retenait la résurrection et fermait le ciel sur le peuple de son époque. Dieu demanda à Ézéchiel de faire quelque chose qui dut lui paraître inhabituel, futile, superflu ou peut-être même un peu ridicule. Prends deux morceaux de bois qui représentent les fractions tribus et groupements de mon peuple qui sont divisés et rapproche-les les uns de l'autre jusqu'à ce qu'ils deviennent un dans ta main. Prends bien soin de faire ça devant le peuple entier. Si nous lisons soigneusement Ézéchiel 37, nous découvrirons que Dieu déversa sur le peuple une série de promesses, de puissance, de guérison et de réveil électrisant, s'il seulement ils se rapprochaient l'un de l'autre. Dieu fait et accomplit en ce moment une nouvelle chose dans les nations. Il éveille le cœur de milliers d'entre nous à cette révélation d'unité, véritable et passionnée, de pardon et de réconciliation, de respect mutuel et d'amour véritable qui produira une vague authentique de résurrection, de réveil. Dieu nous invite à nous tourner les uns vers les autres avec une nouvelle unité et nous serons prêts à changer et à nous approprier cette foi qui se rapproche parce qu'elle a soif de résurrection et de réveil. Retrouvons maintenant Abraham au 13e chapitre de la Genèse, qui marche étape par étape vers une terre de destinée. Abraham est à la tête d'un peuple très nombreux, un clan familial avec ses centaines d'employés, de serviteurs, d'enfants et des milliers de têtes de bétail. C'est une image de prospérité et de croissance. Dans Genèse 13, 2, Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Cela évoque une activité intense, la vie en communauté et le danger, car lui et les siens étaient entourés de peuplades barbares et violentes. Le territoire devenait de plus en plus exigu et occupé. L'espace était rare, la proximité étouffante et la pression faisaient leur œuvre. Il y eut des querelles, des conflits, des divisions entre les bergers, les troupeaux d'Abraham, et les bergers, les troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phéréziens occupaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Abraham avait recueilli Lot, son neveu, fils et son frère, pardon, Abraham avait recueilli son neveu, fils de son frère décédé, dans le périple d'Ur à Chaldée, en Chaldée. Lot perdut son père et Abraham le prit sous son aile dans un moment de grande douleur et de perte terrible pour Lot. Il était alors extrêmement vulnérable, mais il prospéra grâce à la bonté, à la générosité et à la protection de son oncle. Abraham était le patriarche et à ce titre il détenait une autorité suprême sur le clan entier. La tradition, la culture de l'époque, le bon sens et le simple instinct de survie auraient dû faire de sorte que Lot cède la place et le territoire à Abraham, son aîné, son supérieur et son bienfaiteur. Il aurait dû le faire par crainte ou par reconnaissance, c'était ce que Lot aurait dû faire. Mais son orgueil et son arrogance l'avaient aveuglé. Que va faire Abraham ? Abraham avait sur son cœur un centre de préoccupation tout autre et une vision de la situation toute différente. Pour lui, nous sommes frères. Nous avons un exemple à donner au peuple et un message à lancer aux ennemis qui nous menacent. Nous sommes frères, pas de division. Abraham ne craignait pas de perdre la face devant les hommes. Ce qui comptait passionnément pour lui, c'était de ne pas perdre face devant Dieu. Abraham dit à son neveu, « Tout le pays est devant toi, choisis ce que tu veux, je prendrai ce qui reste. » Et Lot de choisir les terres les meilleures, en laissant à Abraham ce qui paraissait être une étendue de territoire stérile, aride, broussailleux et difficile. On pourrait dire qu'Abraham avait perdu son honneur. Il a dû être assailli par toute sa famille et ses serviteurs qui protestaient, s'insurgeaient et l'appelaient à la vengeance. On peut imaginer ça. Mais Abraham cherchait une autre voie. Il n'avait qu'une préoccupation, entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quel est son verdict dans ma situation? Comment puis-je lui plaire pour lui être fidèle? Abraham cherchait par-dessus tout la face, la faveur, l'approbation et la voix de Dieu. Qu'il n'y ait pas de conflit entre nous, ni entre tous ces gens qui seront influencés par notre exemple que nous allons leur donner. Nous sommes frères. Nous, aujourd'hui, dans nos attitudes, nos paroles, nos comportements, nos réactions, lorsqu'il y a un différend, il faut penser, nous sommes frères. Cessons les arguments pour connaître l'autorité de Dieu. Acceptons d'être meurtris parfois pour expérimenter son miracle de sa puissance. Choisissons le pardon plutôt que le panache. Soyons plus intéressés par le triomphe de la délivrance que par le triomphe des débats. Notre réveil personnel est tellement plus important que ma réputation publique. Ce qui compte, c'est l'exemple que nous laissons entre nous, pour nos enfants, pour l'extérieur. Dieu a promis à Abraham ce serment divin qui s'adresse aussi à nous, ainsi qu'à tous ceux qui sont animés de la foi qui se rapproche, cette foi qui a soif de réveil, de résurrection. L'Éternel dit à Abraham, alors que Lot se séparait de lui, « Lève donc les yeux et regarde aussi loin que tu peux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance, et la bénédiction sera au-delà de tout ce que tu peux imaginer. » J'ai soif de réveil, vous qui avez soif de réveil, de résurrection. L'illimité est dans l'unité. Il n'y a pas d'autre chemin possible pour la bénédiction, car il nous est dit, « Ah, qu'il est bon, oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » C'est là que l'Éternel répand la bénédiction. Sur le chemin de la foi qui se rapproche parce qu'elle a soif de réveil ou de résurrection, il y a un moment dans les Écritures qui s'appelle la bataille d'Amalek. Donc là, on va lire un autre verset dans Exode 17, versets 8 à 14. Exode 17, versets 8 à 14. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. » « Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et fatigues, Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi elles restèrent fermes juste au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on se souvienne, pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Oui, Dieu ordonna à Moïse que la description de ces événements soit inscrite dans le livre du souvenir de génération en génération. Dieu nous dit, attention, n'oubliez jamais la leçon d'Amalek. C'est une question de survie et la mesure surnaturelle que vous posséderez en dépendra. Il y a quelque chose dans ce texte à comprendre. Moïse était sur la montagne et ses bras tendus vers Dieu symbolisent la dépendance et sa foi en Dieu pour la victoire contre ses ennemis. La bataille appartient à l'Éternel. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la force surnaturelle de Dieu pour abattre des forteresses. La victoire n'est acquise ni par la puissance, ni par la force humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ces trois versets que j'ai pris dans la Bible. Dans la vie de Moïse, comme dans la nôtre, le combat et les conquêtes sont les mêmes. Je ne peux rien par moi-même. J'échouerais si je mettais mon ultime confiance dans mes capacités, mes idées, mes efforts, mes ressources. Dans ce combat invisible et éternel, nos armes et nos victoires se trouvent seulement lorsque, sur la montagne devant Dieu, nous levons les bras vers lui avec confiance et abandon. Cette montagne, elle peut être physique, c'est vrai, mais elle est aussi dans notre cœur. À lui la guerre et à lui la victoire. Il y a encore autre chose à comprendre dans la bataille d'Amalek. Regardez bien ce qui se passe. Les bras tendus de Moïse qui se fatiguent et commencent à se baisser. Dans la bataille, le vent tourne, l'ennemi reprend du terrain, des gémissements de terreur et de mort remplissent la vallée. Et l'ennemi, comme galvanisé, se met à pousser des cris rauques et menaçants et de victoire, à vous glacer le sang dans les veines. Que se passe-t-il ? La même armée, les mêmes soldats, les mêmes épées qui triomphaient il y a juste un instant et qui se font maintenant massacrer. Aaron et Hur ouvrent les yeux avec horreur et saisissent toute la portée de ce qui arrive spirituellement dans l'invisible. Ils se placent aux côtés de Moïse, ils soutiennent ses bras et dans un geste de parfaite unité, ils soutiennent Moïse. C'est comme s'il disait, nous sommes avec toi Moïse, tu n'es pas parfait, nous aussi nous ne sommes pas parfaits, mais nous reconnaissons que Dieu t'a placé pour être notre chef et nous t'appuyons. Nous devons reconnaître l'importance de ce principe divin et le mettre en pratique par la foi, celle qui rapproche, celle qui a soif de réveil. Et avec l'aide de la grâce et de l'Esprit de Dieu. Dans la vallée, un miracle se produit. La charge ennemie si violente, inexorable et si dévastatrice, impossible à arrêter, il y a un moment de basculement où tout est renversé. Les combattants pour Dieu n'ont pas d'armes supplémentaires. Ils ne sont pas plus nombreux, mais ils sont désormais invincibles. Leur avancée est impressionnante, ils gagnent la bataille. Entendez-vous ce que Dieu vous montre et vous dit ? Notre réalité spirituelle est exactement la même. Nous pouvons réclamer toutes les promesses de victoire lier les esprits, nommer les dominations, chanter les cantiques de combat spirituel. Nous n'avons aucune autorité, aucune légitimité surnaturelle, aucune capacité de victoire véritable si nous ne sommes pas unis derrière et avec nos chefs. Dieu désire la communion entre frères. Dieu désire l'appui entre frères, la miséricorde, le miraculé, le miraculeux, pardon. Dieu désire nous voir animés de l'Esprit Saint qui prie, qui appuie, soutient, aime et pardonne. Chaque jour, prions pour que nous soyons des êtres inspirés par Dieu, car à chaque instant de nos vies, nous avons des choix à faire. Nous avons un guide, Jésus. La Bible enseigne que Jésus est notre avocat auprès du Père et qu'il intercède jour et nuit en faveur des saints. Demandons à Dieu, augmente ma foi, celle qui rapproche, parce qu'elle a soif de résurrection et de réveil. Voilà, mon message est terminé. Et on va faire une. Je vais prier pour notre Église, pour la France et pour le monde, Seigneur. Mais j'ai à cœur, Seigneur, c'est vraiment que ce réveil puisse arriver, que ce réveil arrive, Seigneur, puisque tu modifies les choses dans le monde et que, voilà, les choses sont en place pour que le cœur des hommes puisse changer. Seigneur, Seigneur, ouvre le cœur de chacun. Permet à chaque homme, à chaque femme, de recevoir l'Esprit Saint et de révéler en eux ce qu'il y a de meilleur. Oui, Seigneur. Nous te le demandons. Tu nous demandes aussi dans Ézéchiel de prophétiser sur ces os morts. Eh bien, Seigneur, je voudrais prophétiser sur Wavrin. Réveille, réveille ces gens qui sont morts dans leur cœur. Oui. Viens animer ces cœurs, Seigneur. Viens animer ces cœurs qui ont besoin de ta parole et qu'ils aient la vie éternelle. Merci. Amen.